19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est assurément l'homme le plus fantomatique de la lignée humaine, la grande énigme de notre phylogénie. Né au cœur de l'Altaï, le sud de la Sibérie, il est l'objet de toutes les attentions et chaque découverte mobilise la presse internationale. Il faut dire que sa présence n'a été décelée que tout récemment, que ses vestiges sont particulièrement rares et que, contrairement à Néandertal ou Sapiens sapiens, sa découverte est strictement liée aux extraordinaires avancées de la paléogénétique. L'homme de Denisova, son émergence, son passé, ce que nous lui devons, sera ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture avec deux invités à la pointe de la question, Eva Maria Gagel, Isabelle Crèvecœur. Bonsoir.
Bonsoir.
Paléogénéticienne, directrice de recherche au CNRS, Eva Maria Gagel, vous dirigez un laboratoire à l'Institut Jacques Monod. Paléoanthropologue, Isabelle Crèvecœur, vous êtes chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Passea de Bordeaux, qui regroupe nombre d'anthropologues biologiques habitués de l'émission. Denisova, c'est bien entendu le troisième humain. Nous évoquerons à ce propos votre dernier article qui vient de paraître dans la revue Science Advances et qui révèle la position de cet homme face à Néandertal et à l'homme moderne. Eva Maria Gagel, Isabelle Crèvecœur, l'anthropologie biologique ne vit-elle pas actuellement un moment extraordinaire, de ces moments où tout est possible?
Absolument, c'est un moment excitant pour tout le monde, je pense.
Pour vous aussi, Isabelle Crèvecœur?
Oui, tout à fait. Et plein de challenges parce qu'il faut à la fois intégrer les données nouvelles de la génétique et de toutes les technologies et puis rester les mains dans le sol à essayer de trouver des fossiles. C'est un vrai challenge.
Mais justement, votre métier d'anthropologue biologique se complique énormément. Vous avez un monde qui s'ouvre là.
C'est vrai. C'est extrêmement compliqué maintenant d'essayer de compiler toutes ces informations, mais aussi extrêmement enrichissant. On se rend compte qu'on peut aller de plus en plus loin. Il y a quelques années, on ne pouvait pas espérer aller aussi loin que maintenant et ça complexifie l'histoire et ça l'enrichit.
Eva Maria Gagel, jusqu'où va-t-on aller? Encore plus loin, bien sûr.
Bien sûr. On ne peut pas définir des limites. On ne se définit pas des limites, ça se répète. On veut aller le plus loin possible.
En tout cas, revenons à cette découverte. En 2010, au cœur de l'Altaï, une phalange révèle la présence d'une population humaine jusque-là totalement insoupçonnée, inconnue. Isabelle Crèvecœur.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des fossiles humains en Asie de ces périodes-là. On en avait, avec la question de leur origine, leur évolution, avec des idées, des mots comme erectus tardif, homo sapiens archaïque, etc. Mais on ne pouvait pas suspecter l'existence d'une population aussi proche génétiquement des Néandertaliens qui, avec une telle homogénéité, en fait, en Asie, à cette période-là.
Ça a été une petite révolution, Eva Maria Gagel?
Oh, c'est une révolution, c'est une révolution de la paléanthropologie, je dirais.
Oui. D'un seul coup, de sortir un individu par la génétique et la seule génétique.
Sortir un génome d'un individu du paléolithique supérieur de haute qualité, parce que c'est vraiment un des... On n'a pas beaucoup de génomes qui sont très bien, comme on dit, couverts, c'est-à-dire bien séquencés, grâce à cette préservation de l'ADN qui était exceptionnelle dans cette petite phalange dont on va encore parler. Et en plus, ça a bouleversé la paléanthropologie parce que cette population a été insoupçonnée. Non, ça, c'était une révolution, oui.
Isabelle Crèvecœur, tous les fossiles denisoviens actuellement découverts tiendraient dans une boîte à chaussures et seraient trop petits pour reconstruire l'anatomie de l'individu?
Tout à fait. Alors même peut-être plus petit qu'une boîte à chaussures, parce qu'on a un petit fragment de mandibule qui a été trouvé donc au Tibet, trois dents, et puis cette phalange. Donc il faut imaginer... C'est un groupe humain qui est identifié par l'ADN, principalement. On a des caractéristiques archaïques qui peuvent appartenir, voilà, à tout ce qu'on connaît de fossiles provenant d'Asie pour ces périodes-là. Mais de sûr dénisovien, on va dire, il n'y a que ces quelques ossements. Donc, donner un profil phénotypique, c'est-à-dire morphologique à partir de ces maigres restes, c'est extrêmement difficile.
Dire que c'est dénisovien, c'est un peu audacieux. Moi, je ne suis pas encore convaincue. Je veux voir la génétique, les données génétiques derrière, parce que pour l'instant, on pourrait aussi imaginer que c'est un hybride. Donc, c'est juste une petite séquence de protéines avec une mutation, c'est-à-dire un changement par rapport au sapiens néandertal. Donc, ça reste à voir.
C'est vrai qu'on est contraint par, quelque part, cette fenêtre de la génétique. Maintenant, il y a de plus en plus de chercheurs qui considèrent qu'énormément de fossiles asiatiques, chinois, qui ont été retrouvés ces dernières années, associés au Pléistocène supérieur, appartiennent sans doute à cette population. On n'a pas encore la preuve génétique, mais on a des indices indirects avec certains fossiles, par exemple chinois, qui montrent des caractéristiques parfois un peu néandertaliennes, alors que d'autres traits ne le sont pas du tout. Et qui se rapproche du coup peut-être de cette image de traits en mosaïque que pourraient présenter des Denisoviens.
Mais la preuve ultime, ça sera la génétique.
Pour l'instant, Denisova, il est localisé, grosso modo, à la Sibérie, du moins les fossiles, à la Sibérie, probablement le Tibet, et peut-être un peu au-delà, vers la Chine.
Voilà, on va dire ça, oui. Sur ce qui est actuellement probablement associé à ce groupe humain, oui. On est dans cette zone géographique.
Et absolument rien vers l'Europe?
Non, à ce jour, non.
Ce que vous avez analysé, c'est un fragment de phalange. Phalange qui aurait été partagé dans 3 laboratoires différents à travers le monde?
Oui, c'est une phalange qui est sortie de la grotte Denisova. Comme on a pu reconstruire après notre analyse, c'était donc une phalange qui a été coupée en deux. Une partie, une toute petite partie, la partie proximale, la base, a été envoyée à Leipzig, dans l'Institut de Max Planck à Leipzig. Une autre partie a été envoyée, apparemment, à un laboratoire aux États-Unis. Et de là, cette partie nous est parvenue et on a pu l'analyser. On savait pas, nous, que c'était vraiment la phalange denisovienne. On savait que c'est une phalange qui vient de la grotte Denisova. Donc c'est par notre analyse génétique, donc on a sorti l'ADN, on a analysé l'ADN, on a reconstruit le mitogénome, donc l'ADN mitochondrial, et on a prouvé, puisque c'était identique à ce qui a été déjà publié, que c'est vraiment l'autre bout de cette petite phalange qui a livré le génome en 2012, je dirais.
Eva-Maria Gagel, ce morceau de phalange contenait bien sûr de l'ADN extrêmement bien conservé, vous le disiez tout à l'heure. Mais que faut-il pour que de l'ADN soit conservé réellement dans un site archéologique?
On ne sait pas du tout pourquoi l'ADN est tellement bien préservé dans cette phalange. Et là aussi, il y a des différences. L'ADN est mieux préservé dans la base que dans la partie que nous avons analysée. Donc, il y a des différences. Un os est un tissu hétérogène, donc il y a des hétérogénéités aussi par rapport à la préservation de l'ADN. Et on ne sait pas du tout pourquoi c'était préservé dans ces phalanges. On sait un facteur, c'est sûr, c'est la température. Donc, plus dans les momies de permafrost, l'ADN est bien préservé. Et plus c'est chaud, plus c'est humide et chaud, moins bien l'ADN est préservé. Mais pourquoi dans ces phalanges, on ne sait pas. C'est assez compliqué, ça dépend des conditions physico-chimiques et biologiques, c'est-à-dire nos gros ennemis, ce sont les bactéries qui nous bouffent l'ADN. Et donc, ça dépend probablement de leur accès au matériel ou pas.
Alors j'ai entendu que les dents étaient aussi très bonnes pour se faire des analyses, et puis peut-être aussi un os près de l'oreille.
Le meilleur matériel, c'est l'os pétreux,
voilà.
C'est-à-dire l'os qui protège l'oreille interne. Ça, là, l'ADN est vraiment bien préservé, pas toujours non plus, hein, mais dans la plupart des cas, c'est très bien préservé parce que cet os n'est pas remodelé au cours de la vie. Donc, il reste dans son état au début de l'enfance. Donc, il est très dense, très, très dense. Et donc, les bactéries, justement, ils ne peuvent pas y accéder parce qu'il est aussi, en plus, très peu vascularisé. Et là-dedans, il y a c'est la racine. Chez les humains et les carnivores, il y a une couche de cellules autour de la racine qui s'appelle sément. Et là, ça peut aussi, parce que c'est aussi calcifié in vivo, c'est-à-dire pendant le vivant de l'organisme. Et là, l'ADN peut être aussi, peut être bien préservé. Mais c'est toujours, ça reste toujours plutôt une exception que la règle. Donc ça, il faut pas oublier. C'est pas tous les fossiles qu'on sort de la Terre vont contenir de l'ADN.
Isabelle Krelker, on le sait, l'homme de Denisova est contemporain de Néandertal, mais aussi de l'homme moderne. On connaît désormais sa véritable chronologie?
Alors c'est une chronologie qui est pour beaucoup basée justement sur l'ADN. Donc sa véritable chronologie, non. On sait qu'il est sans doute présent dès le Pléistocène moyen. Et qu'il semble perdurer jusque assez tard, peut-être jusqu'au début du ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur, ou en tout cas la fin du Pléistocène supérieur. Maintenant, la chronologie exacte, elle est plutôt moléculaire.
Alors moi, je vais essayer de traduire vos dates, parce que le Pléistocène et le Paléolithique supérieur, c'est relativement compliqué. On pourrait dire que il est présent vers 160 000 ans, peut-être un petit peu avant, et puis que il va perdurer jusqu'à 30 000, voire même encore au-delà, c'est bien ça?
C'est exact.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
De Néandertal ou de l'homme moderne, de qui Denisova est-il le plus proche? Voilà la grande question qui nous intéresse. Par quels moyens avez-vous réussi à y répondre, Eva Maria Gagel?
Il n'y a pas de question que les Denisoviens, donc la population représentée par cette fille de Denisova qu'on a analysée et qui a fourni le génome, est plus proche génomiquement des Néandertaliens. Et quand je parle de génome, c'est la totalité de l'information génétique. Ça ne représente pas seulement un caractère ou un individu, ça représente une population. Donc il n'y a pas de question. Les Denisoviens étaient plus proches des Néandertaliens. Ils avaient un ancêtre commun qui était plus récent que l'ancêtre commun avec les sapiens, les ancêtres des sapiens. Donc là, il n'y a pas de question.
De nous, les ancêtres de l'homme moderne. D'accord.
Par contre, on n'est jamais homogène. Donc il y a des caractères aussi bien génétiques que morphologiques, bien sûr, hein, parce que les caractères morphologiques découlent de l'ADN, du génome, où on est homogène. C'est-à-dire l'évolution avance pas de manière linéaire sur tous les caractères ou sur tous les génomes. Et c'est ça ce qu'on a vu dans cette phalange qu'on a analysée, que Isabelle a analysée morphologiquement, nous génétiquement. Donc on a vu que la morphologie de cette phalange est plus proche de sapiens, alors que les Néandertaliens ont une morphologie qui est plus récente. Mais là, Isabelle peut dire
Isabelle
un peu
Fassier.
Plus.
En fait, ce qu'on a observé, donc, c'est la morphologie, comme le dit Eva Maria, de cette phalange. Et on l'a comparée à des phalanges de Néandertaliens, des phalanges modernes, qui d'hommes modernes, d'homo sapiens, des périodes actuelles et puis des périodes anciennes. Et on s'est aperçu que cette morphologie, elle était plus proche de nous. Et ça ne veut pas dire que les Denisoviens sont plus proches de nous, c'est simplement que par rapport à cette morphologie qu'on va caractériser par une extrémité du doigt plus étroite et un petit peu plus ronde, ces traits-là, chez les Néandertaliens, ont évolué. Ils ont changé à un moment donné de leur histoire parce que les Néandertaliens, eux, vont présenter des extrémités de doigts aplaties, plus larges. Et ces traits, ils sont connus, on les avait décrits, on savait que c'était ce qui caractérisait Néandertal. Comme Néandertal et Denisova étaient proches génétiquement, on pouvait s'attendre à avoir une phalange des Denisova qui présentait les mêmes traits morphologiques qu'une phalange de Néandertal. Or, c'est pas le cas. Et là, ça nous apprend un peu plus sur Néandertal que sur Denisova quelque part, parce qu'on va se rendre compte que malgré cette proximité génétique, on va avoir certains traits qu'on appelle des autapomorphies, c'est-à-dire des traits dérivés, des traits propres à une lignée qui vont se mettre en place au cours de l'évolution et qui vont caractériser un groupe humain. Du coup, les Néandertaliens sont un petit peu dérivés par rapport aux Denisoviens et à nous sur ce trait précisément. Donc c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on peut se poser la question de pourquoi il se met en place ce trait chez les Néandertaliens. Il semblerait que ce soit plutôt associé à une adaptation biomécanique, donc à une activité, des types d'activités plutôt qu'à une adaptation au climat. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives en la question de pourquoi est-ce que Néandertal va développer ce trait par rapport à Denisova et par rapport à nous.
Eva Maria Gegel, la génétique a donné les mêmes résultats que l'anthropologie biologique ?
Comme j'ai dit, il y a des caractères. On est tous des mosaïques de caractères. Et donc, il y a des caractères qui sont plus évolués, qui sont sélectionnés. D'autres ne sont pas sélectionnés. Donc, ça dépend à quel niveau on se place dans l'évolution.
Isabelle Crèvecœur, vous avez vu cette conférence, ou du moins entendu parler de cette conférence, qui a lieu d'ailleurs plus ou moins en ce moment, où l'on a fait une étude ADN, non pas d'ossements, mais du sol de la grotte de Denisova, et où visiblement les résultats sont assez intéressants.
Oui. Alors c'est quelque chose qui est sorti sur les réseaux sociaux parce que donc cette conférence qui est la conférence de l'ICHI qui a lieu actuellement à Liège, qui est la réunion annuelle des paléoanthropologues préhistoriens européens. Donc apparemment une présentation a été faite sur cette analyse du sédiment qui a déjà été publiée. Hein. Il y a déjà eu des travaux sur cette grotte de Denisova, sur le sédiment de cette grotte, ayant montré d'ailleurs qu'il était possible d'extraire de l'ADN néandertalien et denisovien de ces sédiments, des différentes couches. Et là, a priori, ce serait une preuve de remplacement denisovien par les néandertaliens vers le dernier interglaciaire, c'est-à-dire à la transition entre le Pléistocène moyen et supérieur.
Maria Eva Gegel, vient aussi de paraître un autre article. Ici, les chercheurs ont tenté de recréer l'anatomie du Denisovien à partir des changements épigénétiques. Qu'en pensez-vous ?
Déjà, ça contredit ce qu'on a trouvé, nous. Et nous, on a quand même la phalange, la vraie. Donc, eux, ils disent la phalange des Denisoviens était large. Et non, elle n'est pas large, elle est étroite. Et ça montre bien, cette étude a des gros, gros problèmes. Des gros problèmes méthodologiques. Et franchement, je ne comprends pas comment elle a pu passer. Elle n'aurait pas dû être publiée.
Vous rejetez tout en bloc ? Ça veut dire que c'est quand même terrible pour les gens.
Oui, parce que la
méthode... Les gens malheureux qui, comme moi, n'y connaissent rien.
Oui, parce que la méthodologique, ce n'est pas sérieuse. Il y a des gros, gros problèmes.
Alors, je vais quand même reprendre les résultats vis-à-vis de Isabelle Crèvecœur. Cet article prédit que les Denisoviens partagent de nombreux traits communs avec Néandertal. Jusque-là, on est d'accord. Dont notamment le front bas, une large cage thoracique. Reste bien sûr et visiblement, le crâne est plus large, mais reste aussi donc cette mandibule qui serait extrêmement large. On n'a aucun fossile. On peut imaginer ça ?
Oui, en fait, c'est pas complètement fou d'imaginer ça. C'est-à-dire que si on considère que certains fossiles chinois, du Pléistocène supérieur sont des Denisoviens, c'est cette conformation-là du crâne et du neurocrâne qu'on observe, c'est-à-dire une conformation archaïque. En ça, c'est vraiment là pour le coup l'homme moderne, Homo sapiens, qui va se différencier le long de cette lignée, puisque nous, on va être caractérisé par un crâne globuleux, une rétraction de la face sous le neurocrâne.
Et un menton.
Et un menton. Ce sont des traits propres à Homo sapiens qu'on ne retrouve pas sur les autres populations archaïques. Donc on peut tout à fait imaginer que ces traits qu'on observe chez Néandertal, avec donc une conformation archaïque du crâne, se retrouvent chez les Denisoviens.
Mais imaginez. Parce que les données ne les montrent pas. En plus, ils n'auraient pas dû prendre ce génome néandertalien qu'ils ont pris, parce que ce génome, les données qui étaient produites sur ce génome de Vindija, de la Croatie, avec lequel ça a été comparé, le génome denisovien, a été traité différemment. Donc, laisse pas déduire les sites méthylés. Parce que c'est ça ce qu'il se base. Donc là, c'est un vrai problème.
Quoi qu'il en soit, nous voici devant ce que les chercheurs appellent une mosaïque de caractères morphologiques. Qu'est-ce que cela implique pour vous, Maria Eva Gegel ?
Eva Maria, c'est pas grave. Une mosaïque de traits, aussi bien morphologiques que génétiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des caractères qui sont sous sélection, il y a des caractères qui ne sont pas sous sélection, ou qui sont contre-sélectionnés à un moment donné de l'évolution. Et donc, on évolue en fonction de notre environnement qui exerce une pression ou pas, ou contre, sur nos génomes et sur nos caractères morphologiques qui sont évidemment codés, c'est-à-dire informés par le génome. Et donc, on est tous des mosaïques. Mais là, ça se voit, on a dit que c'est vraiment une mosaïque parce que on voit des dents qui sont très archaïques, on voit une phalange qui est d'une certaine manière aussi archaïque, puisqu'elle est aussi comme les ancêtres des sapiens et des ancêtres des sapiens, des Denisoviens, des Néandertaliens, alors que le Néandertalien a développé des traits dérivés, donc plus récents. Donc, mais ça, c'est vrai pour tout organisme, pour toutes les espèces, pour tout ce qu'on regarde. On regarde un caractère qui se trouve pas forcément sur la même échelle évolutive qu'un autre.
Évoquons la découverte d'un individu hybride entre Denisovien et Néandertalien. Cela avait fait grand bruit, on était en 2018 à peu près.
Oui, ça c'était vraiment une découverte inouïe, vraiment. Ils avaient aussi une chance inouïe parce que c'était une hybride F1, c'est-à-dire c'est les parents. Cet individu avait un parent néandertalien et un parent Denisovien. Trouver ça dans une grotte, hein, par hasard. Donc c'est vraiment une grosse chance. Et ça, évidemment, ça nous a renseigné sur la présence de ces deux populations en même temps, au même endroit, qui se sont hybridées, c'est-à-dire métissées. Il y a un métis qui est vivant. On ne sait pas s'il était fertile, mais il a survécu. Donc ça nous renseigne beaucoup sur la génétique de ces deux populations.
Alors là, c'est aussi un grand progrès, parce que j'ai souvenir, il y a environ 20 ans, João Zilao avait sorti un hybride sapiens-sapiens et néandertalien. Toute la communauté des anthropologues avait absolument hurlé à la mort. Aujourd'hui, les hybrides, on commence à en trouver, vraiment.
Le métissage, c'était la règle plutôt que l'exception, hein, tout le long de notre histoire.
Cette découverte, ça vous intéresse, Isabelle Crèvecœur, le métissage?
Oui, bien sûr. C'est un challenge supplémentaire quand on fouille pour essayer de retrouver des restes humains, puisque ça nous oblige à une vraie vigilance quand on essaie de caractériser les restes morphologiquement, de leur attribuer des affinités vers une ou une autre population. Sur cette découverte d'hybrides, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'était en plus l'absence de restes significatifs, puisque c'est vraiment un fragment de diaphyse qui a été identifié et suite à la technique du Zooms et qui a permis ensuite d'avoir ces résultats. Donc c'est incroyable, oui.
Ça, c'est sûr, il nous manque beaucoup de fossiles. On en attend, bien sûr. En tout cas, la jeune fille serait de mère néandertalienne et de père denisovien et serait à peu près âgée de 90 000 ans. C'est du moins ce que j'ai lu.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas si étonnant parce qu'on trouve le métissage partout dans les génomes. On trouve le métissage sapiens néandertalien dans le néandertalien de l'Altaï qui a à peu près 100 000 ans, 120 000 ans. On trouve denisovien néandertalien et se sont métissés. Les sapiens avec les néandertaliens, les sapiens avec les denisoviens. On trouve ça dans notre génome. Il y avait métissage à tout temps, à tout endroit. Tout le temps.
Ce qui est à la fois normal, et vous le disiez à l'instant, mais tout à fait extraordinaire, c'est que ce génome denisovien perdure encore de nos jours. Pour preuve, il n'y a pas que les Néandertaliens qui sont hybridés avec eux, nous aussi, semble-t-il.
Absolument. Chez les Asiatiques, aussi bien les Asiatiques de l'Est, mais surtout les Polynésiens, Mélanésiens, et aussi chez les Australiens aborigènes. Et chez les Tibétains, où on a trouvé des allèles, c'est-à-dire des variants génétiques qui viennent des Denisoviens. Donc on sait qu'il y avait métissage.
Il y aurait même eu des propriétés liées à l'immunologie sur les Tibétains?
Oui, c'est sorti récemment. De nouveau, c'est à travers la génétique qu'on arrive à identifier ce type d'avantages. Donc, il y aurait eu des sélections positives pour certains traits qui sont présents encore dans les populations actuelles. Voilà, la résistance à des climats extrêmes en altitude ou la résistance à certains types de maladies grâce à une réponse immunologique plus forte.
J'ai lu que 3 à 9% de génomes seraient chez les Papous et chez les Aborigènes, 0,5% chez les populations d'Extrême-Orient. Chez nous, probablement occidental, probablement zéro. Tout ça est donc très variable.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Nous, on a une bonne partie des variants génétiques néandertaliens.
3% maximum.
Mais pas denisovien.
Eva Maria Gegel, est-ce que vous avez visiblement dressé le modèle phylogénétique de ces trois individus, donc Denisova, Néandertal et Sapiens Sapiens, sur 1 400 000 ans à partir du génome nucléaire et mitochondrial? Qu'est-ce que cela donne? grosso modo. Vous le disiez en début d'émission, on aurait deux branches et puis...
Oui, donc l'idée est que il y avait un ancêtre commun aux Néandertaliens, Denisoviens et Sapiens. Puis cet ancêtre est sorti de l'Afrique et c'était l'ancêtre. Et après, à partir de cet ancêtre, se sont développés en Europe les Néandertaliens et en Asie les Denisoviens. Chez les Denisoviens, on trouve aussi l'introgression, probablement l'introgression encore d'une autre population encore plus archaïque, qui se manifeste probablement dans le génome mitochondrial. À moins, c'est un tri de lignage incomplète qui vient. On pourrait imaginer que ça serait Homo erectus, mais c'est pas encore identifié. Donc plus tard, Sapiens a continué à évoluer en Afrique et est sorti donc plusieurs fois certainement, parce qu'on le voit aussi dans l'Altaï qu'il y avait déjà des Sapiens il y a 120 000 ans qui se sont hybridés avec les Néandertaliens, donc ils y étaient. Clairement, mais la dernière vague qui est sortie de l'Afrique il y a 70 000 ans, probablement, c'était cette vague-là qui est après restée en Europe, qui est notre ancêtre actuel.
On sait même que les Denisoviens auraient pu toucher les Sapiens selon plusieurs vagues, pourrait-on dire ?
Oui, il y avait plusieurs vagues. Ça, on n'a pas trouvé dans les fossiles. Ça, c'était vraiment construit à partir des génomes des différentes populations actuelles, c'est-à-dire en Asie, japonais, coréens, et chinois, et les papous, et les mélanésiens, aborigènes, australiens. Donc, on peut différencier différents événements de métissage avec probablement des sous-populations denisoviennes.
Je parlais d'accélération de la recherche. Pour preuve, deux autres, voire trois autres humanités ont émergé aussi, voici peu, dans des régions plus méridionales. La présence d'autres individus est aussi soupçonnée. On serait aujourd'hui sur une sorte de buissonnement ?
Certainement, oui. On attend d'autres populations d'apparaître, hein. C'est très probable.
Il n'y a aucun doute, même au niveau fossile, qu'il y a des régions entières du monde qui sont sous-étudiées, sous-analysées, explorées, et que des découvertes comme celles qui ont été faites récemment vont encore arriver.
Eva, Maria Gégel, Isabelle Crèvecoeur, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.